Alors ce matin, vous allez peut-être être étonné du sujet que j'ai choisi. Je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure, il y a eu des avions qui sont passés au-dessus de notre tête. Hein, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour férié. Eh oui, c'est le 14 juillet, c'est la fête nationale, la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789. Et je parlerai ce matin surtout de la devise de la République française, liberté, égalité et fraternité. Ce n'est qu'en 14 juillet 1880 que cette devise apparaît sur les frontons de toutes les institutions publiques. On va arrêter là l'histoire. Ce qui est important, c'est que nous retrouvons ces sens de ces trois mots, notre vie unie en Christ. Et c'est formidable parce que nous pouvons parler de cela ce matin, de ce que Christ nous donne, sa vie en lui. Alors c'est vrai que liberté, hein, état d'une personne physique libre, situation d'une personne qui n'est pas sous une dépendance absolue, qui n'est pas esclave, dans la servitude, absence de contraintes, dans le domaine politique, social, pouvoir agir au sein d'une société organisée selon sa propre détermination dans les limites des règles définies. La liberté de penser, la liberté religieuse, la liberté, et ainsi de suite. Mais ce qui est très intéressant, c'est que des fois, il y a des personnes qui se croient libres et qui ne le sont pas. Parce qu'en fin de compte, est-ce que l'homme est véritablement libre ? C'est très intéressant, à un moment donné, ça se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 8. Jean, chapitre 8, à partir du verset 30, il dit ceci. « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ou « Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. » Les Juifs lui répondirent, « Mais nous sommes de la postérité d'Abraham, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu que vous deviendrez libres ? On est libres, nous !» Quoiqu'ils étaient sous la domination romaine, ils se disaient libres. Et Jésus continue, « en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Dans la première épître de Pierre, dans une des épîtres de Pierre, il dit, « Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ou encore, dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, quand l'apôtre Paul parle de notre passé, il dit, « Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » L'homme, par nature, est esclave de ses passions, de ses convoitises, de ses péchés. L'homme, même s'il se croit libre, si il regarde bien, est-ce qu'il n'est pas pris par l'esclavage de ses passions, par ses péchés, par ses toutes sortes de pensées ? Et Jésus continue, il dit, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est formidable, hein ? Est-ce que je suis réellement libre ? À un autre moment, Vous savez, il y avait pour coutume, on le fait maintenant, de lire un passage dans la Bible. Et là, Jésus se trouve dans une synagogue et on lui propose de lire et on lui donne le livre d'Ésaïe. Et puis, il y roule le livre d'Ésaïe. Et puis, à un moment donné, il se met à lire. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Puis là, les gens, ils le regardent. Puis Jésus dit, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus, en venant sur terre, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu, perdu dans nos péchés. Et c'est vrai que l'homme, par nature, ne peut pas se délivrer lui-même. Il peut tout essayer, il n'y arrivera pas. Il y a toutes sortes de choses. Il y a même le moine qui s'enferme pour essayer de se délivrer de son péché, mais il n'y arrive pas. Par nature, l'homme ne peut pas se délivrer du péché. Et je pense à ce passage de Romains 7. Il dit « Je voudrais faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Je sais que la loi, elle est bonne, mais en fin de compte... » Et on voit ce tiraillement qu'il y a dans l'homme. Jusqu'à un moment donné... où il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Dans Parole vivante, il dit « Quel déchirement terrible, infortuné que je suis, qui me libérera de l'emprise de ma nature pécheresse ? Qui affranchira mon corps de l'esclavage de mes mauvais instincts ?» Dieu merci, il existe une issue. Dieu lui-même me délivre par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et tout de suite après, il est dit dans Romains, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi ou m'a libéré de la loi du péché et de la mort. M'a libéré la loi du péché et de la mort. Est-ce que je suis libre en Christ ? Est-ce que je suis réellement libre ? Et juste avant, dans Romains 6, il nous parle en fin de compte que c'est vrai que Christ est mort sur la croix, mais il dit « Je suis mort aussi avec lui ». Et c'est l'image du baptême où il dit voilà, cette identification. Et il est dit ceci, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Pour que nous soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Formidable, n'est-ce pas ? Notre union avec Christ. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même. » Oui, Christ est venu pour nous libérer. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Bien souvent, et je le dis souvent parce que c'est ce que j'ai vécu moi au début de ma vie chrétienne. Je ne savais pas. Voilà, Christ était mort sur la croix pour moi, j'ai pris ce message-là pour moi et tout. Mais je m'étais mis toutes sortes de lois pour essayer de plaire à Dieu par mes propres forces, après. Mais il m'a libéré de la servitude. Je m'étais remis sous une servitude. Ce qui est agréable au Seigneur, c'est quoi? C'est la foi. C'est ça qui lui est agréable. C'est croire en lui. Seigneur, tu as tout fait pour moi. Tu as tout accompli pour moi. Je peux m'appuyer sur toi. Je peux dépendre de toi. Vivre de ta vie. Il nous a délivrés aussi de la puissance des ténèbres. Autrefois, j'étais un enfant de ténèbres. Maintenant, je suis un enfant de lumière. Et j'aime bien aussi cette image de ce fardeau. Vous savez, quand, je ne sais pas si vous avez lu le livre, vous avez regardé le film « Le voyage du pèlerin ». Et vous voyez cet homme qui, avec un lourd fardeau qui est là, qui, il essaie de s'en débarrasser, mais il n'y arrive pas. Et puis, il a toujours toutes sortes de conseils. Il a légaliste, il reçoit... Il voit plein de personnes qui lui donnent des conseils jusqu'au jour, au moment donné où il arrive devant la croix. Et là, on voit ce fardeau qui tombe complètement. Et enfin, il est libre! Formidable aussi, parce que je suis libre de pouvoir m'approcher de Dieu, sans crainte. Approchez-vous de lui avec confiance. La route est ouverte. Je peux venir devant le trône de la grâce. C'est formidable. Je peux venir en toute liberté parce que Christ a versé son sang pour moi. Alors je vous pose la question ce matin. Est-ce que vous êtes libre réellement? Est-ce que vos péchés sont pardonnés? Est-ce que vous êtes délivré par le Seigneur? Est-ce que le Seigneur vous a donné une vie nouvelle? Est-ce que vous pouvez vivre de son esprit? C'est important. Sinon, vous n'êtes pas libre. Alors, cette liberté, est-ce que ça veut dire que je peux faire n'importe quoi maintenant? Non. Cette liberté en Christ ne doit pas nous amener à faire n'importe quoi. Comme il est dit dans Pierre, « Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. » Ou encore, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Ou encore, frère, vous avez été appelé à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Voilà, j'ai été délivré, j'ai pu ce fardeau. J'ai le pardon de mes péchés, j'ai été réconcilié avec Dieu, j'ai la paix avec Dieu. Et ben dans ma vie avec le Seigneur, en étant uni avec lui, je vais pouvoir le servir en toute liberté, avec amour, et je vais pouvoir servir les frères et sœurs aussi dans ce sens-là. Égalité, absence de toute discrimination entre les humains sur le plan de leurs droits, égalité politique, civil et social. Édouard Herriot a dit ceci: il est plus facile de proclamer l'égalité que de la réaliser. L'égalité est une bonne devise, mais nous savons que dans ce monde, ce n'est pas toujours le cas. Mais en Jésus-Christ, nous sommes tous égaux au niveau du salut. Formidable. Nous sommes tous égaux au niveau du salut. Dans Galates, il est dit, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham, héritier selon sa promesse. » Dans Colossiens, il est dit, il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ça, c'est formidable. C'est révolutionnaire. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, il a apporté la vraie révolution. Il n'a pas versé le sang des autres, il a versé son propre sang. Et c'est une révélation, une révolution d'amour. Il a fait tomber les barrières sociales, culturelles, raciales, tous les croyants, ensemble. Il n'y a pas de différence. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, tout à l'heure, on a chanté le 293. Entre le juif et le grec, c'était impensable. C'était pas possible. Et d'ailleurs, nous qui étions en dehors de l'Alliance, on était sans espérance, sans Dieu dans le monde. Il est dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, et ça c'est formidable, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Il a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi et les ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. Formidable. Je ne sais pas si on se rend compte. On le lit maintenant, mais à l'époque, c'était impensable. Nous avons été réconciliés avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, nous, et la paix à ceux qui étaient près, les Juifs. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Le même accès, que ce soit un Juif ou un... Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Formidable ça. Pas de différence. Dans Romains, il dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Et comme on voit, hein, Jésus racheté. Jésus a racheté pour Dieu, par son sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Égaux. Ça, c'est formidable. Cette égalité. Pense à, et puis comme l'Inde avec les castres, les intouchables, pas évident non plus. C'est formidable de voir un Indien de haut rang avec quelqu'un qui était intouchable prendre la scène ensemble. Formidable. Je me rappelle d'un film que j'avais vu de Le Livre qui ne brûle pas. C'est un film qui parlait de la persécution à Madagascar. Puis à un moment donné, on voit, à un moment donné, ils prennent la scène et on voit la maîtresse et l'esclave prendre la scène ensemble. Et se passe la scène. Voilà, c'est formidable. Égalité en Christ. Alors, d'une façon pratique, pour nous, quelle attitude que j'ai vis-à-vis des autres ? Est-ce que je fais une différence ou pas? Et alors en ce moment, on est en train d'étudier l'épître de Jacques. On ne l'a pas encore étudié, alors je prends de l'avance par rapport à Baptiste, mais je le lis simplement. C'est Jacques 2, chapitre 2, verset 1, il dit « Mes frères, que votre foi en notre glorieux et Seigneur Jésus-Christ soit exempt de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or, un habit magnifique, qu'il rentre aussi un pauvre misérable vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte un habit magnifique, vous lui dites « Ah toi, assieds-toi là, à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre « Oh toi, tiens-toi là, debout, ou assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas vous-même une distinction? N'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Très intéressant ça, hein? Ou alors dans Romains, il dit « Que le Dieu de l'espérance et de toute consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. » Les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. « Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, sans aucune différence, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Mais le Seigneur, en fin de compte, nous donne cette égalité, oui, mais il nous apporte à les mêmes d'aller plus loin. Ah oui. Il dit dans Philippiens, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même. » Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Nous aussi, soyons les serviteurs des uns des autres. Fraternité, lien de solidarité qui devrait unir tous les membres de la famille humaine. Alors, tout à l'heure, Baptiste a dit que quand on tourne les regards vers lui, on n'a pas honte. Mais il y a un autre passage où il dit qu'il n'a pas honte. Vous savez c'est lequel? C'est dans le passage des Hébreux. Il dit, c'est pourquoi il n'a pas eu honte de les appeler frères. Le Seigneur Jésus-Christ qui a quitté la gloire, qui est venu sur cette terre, il a revêtu la nature humaine, il a participé. Il a été fait péché à notre place, sur la croix. Et il n'a pas honte de nous appeler frères. Parce que Jésus-Christ, il s'est donné entièrement. Il s'est donné pour nous. Il a vu notre misère. Il est venu nous secourir. Voilà sa solidarité. Mais c'est la solidarité beaucoup plus. Il est venu nous chercher. Il est venu nous sauver. Il est venu nous arracher de ce monde. Et il nous a appelés frères. Ha! Il est ce bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Ou dans Éphésiens, il est dit qu'il s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Dans Tite, il est dit, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Et encore, dans Pierre, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, lui-même, il a porté nos péchés. Voilà sa solidarité, son action. Et il n'a pas eu honte de nous appeler frères. Alors, pour nous aussi, notre mise en pratique, notre fraternité entre nous, notre solidarité entre nous. Et c'est vrai que quand on lit ce passage des Actes où il nous parle de l'Église, du début de l'Église, où il est dit ceci: ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles et des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Waouh ! Selon le besoin de chacun. Et vous connaissez, et je cite souvent, on cite souvent Jean 3,16, mais il y a 1 Jean 3,16. Et 1 Jean 3,16, il dit ceci: nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Vous savez, pour nous, il y a cette expression qui revient souvent dans le Nouveau Testament. Et on l'a vu il y a quelques mois en arrière. Les uns les autres. Les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Alors, ça revient ipso facto. Accueillez-vous donc les uns les autres. Consolez-vous donc les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Édifiez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Prenez soin les uns des autres. Ça, c'est formidable. C'est la marche du chrétien. Si j'ai été libéré, si j'ai reçu le salut, si Christ est mon frère, eh ben, je vais aussi partager avec les autres, avec les frères et sœurs. Mais il y a aussi mon prochain, celui peut-être qui n'est pas avec moi dans l'église. Alors ne soyons pas comme ce docteur de la loi qui voulant se justifier, hein. Mais qui est mon prochain? Et c'est là où il y a cette parabole du bon samaritain, où Jésus explique de celui qui a été blessé et que le premier passe, il fait rien, le deuxième. Et d'ailleurs, c'est des hommes religieux qui passent. Jusqu'à ce samaritain qui est venu, qui l'a vu, qui a pris compassion. Mais il n'est pas resté comme ça en disant il a compassion. Mais il a agi. Il l'a soigné, il l'a mis sur sa monture. En fin de compte, il a marché à côté. Après, il l'a amené dans une hôtellerie. Il a passé la nuit avec lui. Parce que c'est marqué le lendemain. En plus, il a donné de l'argent à maître de l'hôtel en disant « Écoute, voilà, 2 deniers, et soigne-le, et s'il n'y en a pas suffisamment, je te donnerai à mon retour. » Et Jésus posait la question à « Qui a fait ? Qui a eu miséricorde ?» Et cet auteur de la loi, il dit « Bah lui, bah, il dit « Bah toi, fais de même. » Et quelle... Nous avons cet exemple pour nous aussi, cette solidarité, cette fraternité qu'on doit avoir. Alors c'est sûr, nous sommes les citoyens de cette terre, mais nous sommes aussi des citoyens des cieux, il ne faut pas oublier. Hein? Nous sommes citoyens des cieux, mais agissons autant que sur la terre avec amour, que d'autres puissent connaître cette liberté, cette égalité,